La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. Ce sont deux métiers incarnés principalement par des femmes avec des conditions de travail particulières. La tête au carré s'intéresse aujourd'hui aux hôtesses d'accueil et aux aides à domicile vues par le prisme de la sociologie. Mes invités ont mené l'enquête en endossant l'uniforme de ces métiers pour en comprendre la nature et le fonctionnement. Deux professions qui concernent donc de très nombreuses femmes qui sont souvent synonymes d'ailleurs d'emplois précaires. C'est le dossier de la tête au carré dans un instant et j'attends dès maintenant vos messages, vos témoignages sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Elle vivait il y a 3,7 millions d'années, marchait sur ses deux pieds et elle fait la une de la science aujourd'hui. Son nom est...
Littlefoot, l'australopithèque sud-africaine contemporaine de Lucy. Son squelette incroyablement complet fait l'objet de 4 publications cette semaine. On essaye de faire le tour de tous les os dans un instant.
Fanny Boyon réalise cette tête au carré qui a été préparée aujourd'hui par Irène Menahem.
La tête au carré, les mercredis psy et philo. Avec Mathieu Vidard sur France Inter.
L'emploi précaire au féminin, les hôtesses d'accueil, les aides à domicile, dossier donc cet après-midi de l'émission avec mes invités que je salue, les sociologues Gabriel Schutz et Christelle Avril. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bienvenue. Bonjour. Gabriel Schutz, vous publiez donc cette année Jeune, Jolie et Sous-traitée, les hôtesses d'accueil aux éditions La Dispute. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous intéresser à cette profession en particulier ?
À l'origine, en fait, c'est plus un hasard de circonstances qu'autre chose. Hein. C'est que j'ai exercé ce travail pendant mes études à un moment. Puis bon, j'ai arrêté. Et puis au moment où donc, je faisais de la sociologie, et au moment où je cherchais un sujet pour mon DEA de sociologie, maintenant on dirait M2,
Et bien... Vous avez dit, bon sens, bien sûr.
Voilà, bien sûr, c'est là-dessus que je devrais travailler.
Voilà, vous en avez fait maintenant un ouvrage, on va en discuter avec vous. Même question pour vous, Christelle Avril, avec ce travail sur les aides à domicile que vous avez mené il y a plus de 4 ans maintenant, hein, qui a fait l'objet donc d'un livre, Les aides à domicile, un autre monde populaire, toujours aux éditions La Dispute. Comment est née l'idée d'enquêter sur cette profession pour vous ?
Alors, je vais faire une réponse assez proche de celle de Gabriel. Tout simplement, j'ai travaillé comme aide à domicile et j'ai décidé à un moment d'en faire un objet d'étude, notamment parce que je voyais bien que ces femmes, finalement, personne parlait de leur travail concrètement. Et donc, c'est ce qui m'a intéressée dans cette idée de poursuivre l'enquête sur ces femmes.
Voilà, profession invisible en tout cas, qu'on va mettre en lumière avec vous cet après-midi pour croiser justement vos travaux et comprendre ce qui caractérise ces métiers, donc principalement effectivement incarnés par des femmes. Et vous allez bien sûr répondre aux messages des auditeurs, voire aux témoignages, puisqu'on nous rejoint sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque.
Lucie, 3 200 000 ans, une jeunette par rapport à l'ancêtre que le professeur britannique Ron Clark a découvert en Afrique du Sud. Un squelette d'Australopithèque plus âgé encore de 300 000 ans et il est en très bon état, bien meilleur en tout cas que Lucie, présentée jusqu'à présent comme notre mère grand à tous.
Voilà, 20 ans après sa découverte, puisque là c'était en 1999 sur France Inter, Littlefoot, l'Australopithèque, fait son retour donc à la une, Axel, avec 4 publications très détaillées cette semaine.
Oui Mathieu, ces papiers ne sont pas passés inaperçus, on en apprend énormément sur elle. Et oui, Littlefoot était une vieille Australopithèque qui vivait il y a 3,7 millions d'années en Afrique du Sud, mangeuse de fruits, bipède assurée, mais aussi grimpeuse, puissante. 90% de ses os ont été rassemblés par les équipes, si bien que son squelette est aujourd'hui le plus complet que l'on connaisse pour un Australopithèque. Pour en parler, nous sommes en duplex avec les studios de France Bleu à Toulouse avec José Braga. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes paléoanthropologue, professeur à l'université Paul Sabatier, c'est à Toulouse, et à l'université Witwatersrand, ça c'est à Johannesburg en
Afrique
du Sud.
On dirait de l'allemand, mais c'est Johannesburg.
Oui, c'est ça.
C'est ça.
Alors, Ron Clark a annoncé la découverte du premier os de Littlefoot en 98. Il arrive avec les études détaillées là de ce fossile exceptionnel. Pourquoi est-ce qu'on a attendu 20 ans?
Alors, le linceul de pierre dans lequel Littlefoot était piégé depuis plus de 2,5 millions d'années était très dur à dégager.
Ouais.
Et donc, Ron Clark et son équipe ont attaqué ce difficile travail donc depuis plus de 20 ans en utilisant un micrograveur, donc cette espèce de petite fraise que le dentiste parfois utilise aussi et qui vous donne de si mauvais souvenirs.
Voilà.
Donc voilà, on a donc mis beaucoup de temps à dégager Littlefoot pour cette raison-là, simplement.
Alors si on resitue un peu Littlefoot dans la lignée des hominidés, elle est contemporaine et du même genre que Lucy, donc ce sont toutes les deux nos grandes cousines, est-ce qu'on peut le dire comme ça ?
Oui, elle est quasiment contemporaine. Alors il y a encore quelques petits débats sur l'âge exact de Littlefoot, mais on peut le dire, oui. Littlefoot et Lucy vivaient dans deux régions distinctes d'Afrique, mais aux alentours de 3,5 millions d'années, pardon. Pour Lucy, c'est 3,2. Oui. Littlefoot, c'est plutôt 3,7. Mais
donc on tranche au milieu.
On est sensiblement dans le même monde. Voilà,
c'est ça. Alors exactement. 90% du squelette, ça, c'est ce que les équipes ont pu obtenir avec cette fraise de dentiste. Sans même parler des résultats sur les os, rien que ce chiffre-là est exceptionnel, José Braga.
Oui, absolument. Parce que Lucy, elle, on ne la connaît, si j'ose dire, que par environ 40% de son squelette. On n'a pas le crâne de Lucy, par exemple. Littlefoot, on a la tête et les pieds, et tout ce qu'il y a entre les deux. Donc il manque que quelques petits os, mais on sait presque tout d'elle grâce à ce magnifique squelette de quasiment complet. Oui.
Et pourquoi Lucy est plus célèbre que Littlefoot quand même, José Braga? Parce que là, on a un squelette exceptionnel, avec en plus le crâne.
Oui, Lucy, c'est l'icône de la préhistoire parce que à l'époque de sa découverte, on connaissait très très peu les Australopithèques, ce monde qui nous précède entre 4 et 2 millions d'années. Lucy a été et toujours un fossile emblématique parce qu'il correspond à la première découverte de quelque chose d'aussi complet représentant les Australopithèques. Mais depuis, Lucy a été, si j'ose dire, même si on l'aime beaucoup, bien sûr, détrônée par bien d'autres squelettes. Je pense à Sediba et bien sûr maintenant aujourd'hui à Littlefoot.
Alors on découvre ces résultats maintenant, ces résultats très précis sur son squelette. Quelles sont pour vous les grandes surprises de cette étude, de ces quatre études publiées par les équipes de Ron Clark ?
La grande surprise à propos de Littlefoot, c'est qu'elle nous donne pour la première fois une idée des proportions du corps. On ne savait que très très peu de choses à ce sujet parce que Lucy ou d'autres squelettes d'Australopithèque, moins complet mais relativement complet, ne permettait pas de mesurer l'ensemble des os du squelette. Or, on sait maintenant que, grâce à Littlefoot, que ces Australopithèques étaient très modernes par leurs membres inférieurs, mais encore très Australopithèques, oui. Pas simiesques, mais très Australopithèques par leurs membres supérieurs. Autrement dit, ils marchaient sur leurs deux pattes postérieures, clairement. Littlefoot nous le dit, nous le confirme, mais ils avaient encore une force absolument phénoménale au niveau des épaules et des membres supérieurs.
Mais si on essaye d'imaginer un petit peu les modes de déplacement de ces deux ancêtres, comment il faut les imaginer se déplacer dans leur environnement ?
Alors il faut les imaginer se déplaçant parfaitement sur leurs deux pattes postérieures, bipèdes, redressés comme nous, mais avec une aptitude à grimper aux arbres très très importante parce qu'ils avaient tous les mécanismes, tout l'équipement pour pouvoir notamment s'accrocher aux branches par cette musculature très très puissante au niveau des épaules. Mais au sol, ils étaient très très modernes dans leur démarche. Ils devaient avoir une démarche parfaitement moderne. Mais certainement encore une voûte plantaire pas suffisamment bien adaptée à la course, notamment. Oui. C'est ce qui nous caractérise, nous les humains. Nous pouvons courir longtemps.
Donc c'est une espèce de transition, José Braga, finalement, entre la capacité à grimper dans les arbres et la bipédie aussi ?
Exactement. On a là affaire à une forme intermédiaire, quelque chose de tout à fait inédit, qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Ça n'est pas un chimpanzé, ça n'est pas un humain, c'est quelque chose de, d'intermédiaire en quelque sorte, mais de nouveau, de différent.
Alors il y a aussi des surprises, puisqu'avec Lucy on n'avait pas de dents, on n'avait pas de crâne, alors que Littlefoot a des dents et un crâne. Qu'est-ce qu'on apprend en plus sur l'Australopithèque en général quand on regarde son crâne ?
Alors ce qui est très intéressant avec Littlefoot, c'est qu'on a la boîte crânienne de cet individu qui nous permet de faire pour la première fois le lien entre la taille du cerveau et la taille du reste du corps. Et ça c'est très intéressant, pourquoi ? Parce que Littlefoot avait certainement un cerveau à peu près de la taille de celui d'un chimpanzé, mais par contre son corps était environ deux fois plus petit que celui d'un chimpanzé mâle adulte. Et donc si on ramène la taille du cerveau en proportion de la taille du corps, eh bien on peut dire que cet Australopithèque, comme d'ailleurs ses petits copains d'Afrique de l'Est, dont Lucy est une représentante, devait avoir un cerveau qui, proportionnellement au reste, par rapport au reste du corps, devait avoir un cerveau beaucoup plus grand, proportion de la taille du corps.
Oui, et Ron Clark, dans ses travaux, va même un peu plus loin que vous à cette antenne, puisque pour lui, Lucy et Littlefoot ne sont pas de la même espèce d'Australopithèque. Il propose Australopithecus Prometheus pour Littlefoot. C'est assez critiqué depuis que c'est paru le 5 décembre. Pour vous, c'est une bonne idée ou il faut réfléchir encore ?
Alors, Ron Clark, oui, pense que non seulement Littlefoot n'est pas de la même espèce que Lucy, donc sa cousine est-africaine, mais que Littlefoot n'est pas de la même espèce que d'autres Australopithèques contemporains d'Afrique du Sud, que l'on appelle Africanus. Donc il pense que Littlefoot appartient à une troisième espèce d'Australopithèque. À mon avis, il faut rester prudent pour l'instant parce que, en fait, on n'a pas encore réellement tout mesuré sur Littlefoot et tout mesuré sur d'autres squelettes contemporains ou proches en âge de Littlefoot pour pouvoir réellement convaincre l'ensemble de la communauté qu'il s'agit bien d'une nouvelle espèce. Donc prudence, prudence.
Prométhéus, ça vient d'où, Prométhéus ?
Alors Prométhéus, c'est un nom d'espèce qui a été proposé il y a fort longtemps, dans les années 40, lorsque certains morceaux de crâne d'Australopithèque ont été trouvés toujours en Afrique du Sud. Et ces éléments semblaient à l'époque suffisamment différents de ceux que l'on avait retrouvés dans d'autres régions d'Afrique du Sud pour pouvoir créer une nouvelle espèce. Mais ce nom n'a pas fait école, tout simplement parce que là encore, l'absence de mesures, l'absence d'observations plus fines ne convainquait pas l'ensemble de la communauté scientifique.
Merci beaucoup José Braga pour ces précisions au sujet de Madame Littlefoot, notre vieille cousine de 3,75 millions d'années.
Allez,
en tout cas.
On met au milieu.
Voilà, exactement. Merci beaucoup à vous, merci aux équipes de France Bleu à Toulouse pour ce duplex. Et puis Axel, on se retrouve demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, une supernova est-elle à l'origine de la disparition des grands animaux marins du Pléistocène ? La thèse est défendue, en tout cas, par une équipe brésilienne dans la revue Astrobiologie. Il y a 2,6 millions d'années, l'explosion d'une étoile en fin de vie à seulement 150 années-lumière de la Terre a très certainement éclairé le ciel de notre planète pendant plusieurs semaines. Un tsunami de rayons cosmiques est venu déstabiliser notre atmosphère et irradier les formes de vie sur Terre. Et selon les chercheurs, cet épisode serait à l'origine de la disparition de la mégafaune marine, telle qu'on la trouvait à l'époque, comme ces grands requins qui étaient aussi grands que des bus scolaires. Le trafic routier favorise l'ambroisie. Si comme 10% de la population vous êtes allergique à cette plante, sachez qu'une étude vient de montrer que les courants d'air générés par un trafic intense peuvent disperser des graines à plusieurs dizaines de mètres de leur point de départ. Une aubaine donc pour cette plante qui possède un rayon de dissémination habituel d'un mètre carré. L'étude est la première à lier la propagation de cette espèce envahissante avec nos modes de circulation. Les auteurs suggèrent que les municipalités puissent tondre au bon moment les abords des routes, c'est-à-dire avant que les semences ne soient mûres. Et puis pour terminer, les grenouilles tongara des villes crient plus fort et plus longtemps que celles des forêts. Ces amphibiens sud-américains ne sont certes pas faciles à regarder car un peu pustuleux, mais par contre ils sont très faciles à entendre. Leur nom découle du cri des mâles tongara, un long tu et un très court gara, ou plusieurs parfois d'ailleurs, écoutez. Voilà, et des chercheurs ont remarqué que la puissance du toun et le nombre de gara émis par ces grenouilles étaient bien supérieurs à proximité des villes. Preuve selon les scientifiques que ces batraciens ont besoin de se faire mieux entendre des femelles, mais aussi qu'ils ne craignent pas d'attirer leurs prédateurs principaux, les chauves-souris. Allez, les emplois précaires des femmes dans un instant, on parlera des aides à domicile et des hôtesses d'accueil.
Do I really see this boy that I think I've fallen for? can't have it. When we got it, we don't seem to want it. We all want a teenage fantasy. Want it when we can't have it. When we got it, we don't seem to want it.
Teenage Fantasy, c'était la voix de Georgia Smith.
La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Voilà, deux livres, deux enquêtes pour nous permettre cet après-midi de plonger dans des métiers souvent laissés dans l'ombre, celui d'hôtesse d'accueil et celui d'aide à domicile, dossier donc de la tête au carré pour découvrir le travail mené par mes deux invités sociologues. Gabrielle Schütz, vous êtes maîtresse de conférence à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines et vous êtes donc l'auteur de ce livre « Jeune, jolie et sous-traitée, les hôtesses d'accueil » publié aux éditions La Dispute. Et puis Christelle Avril, vous êtes également maîtresse de conférence à l'école des hautes études en sciences sociales et vous nous parlez, vous, de cet ouvrage « Les aides à domicile, un autre monde populaire » qui est sorti en 2014, toujours aux éditions de La Dispute, avec les auditeurs qui nous rejoignent sans doute avec des témoignages, mais aussi des questions pour vous sur le site de la Tête au Carré. Un mot d'abord pour comprendre la façon dont vous avez travaillé pour étudier ensemble ces deux professions. Vous avez enquêté, je crois, au départ dans le cadre de vos thèses, c'est ça, Gabrielle Schütz, hein ?
Oui, tout à fait. Donc, j'ai commencé ce travail, comme je disais, comme ça, hein, sans visée d'enquête spécifique. Et puis finalement, j'ai décidé de travailler dessus. Donc à ce moment-là, je me suis fait réembaucher comme hôtesse d'accueil, ce que j'avais cessé entre-temps de faire comme travail. Et puis ensuite, j'ai aussi souhaité travailler au sein des sociétés prestataires, hein, c'est-à-dire pas sur les sites clients où travaillent les hôtesses, mais là où elles sont gérées, pour comprendre vraiment la gestion de la main-d'œuvre dans ces sociétés-là. Donc c'est comme ça que s'est déroulée cette enquête.
Le travail a duré combien de temps? Alors, cette immersion pour vous, en tous les cas, dans la profession, ça a duré combien de temps?
Oh, ça a été assez long parce que déjà, il y a l'année où j'ai fait ça en dehors de toute visée de recherche. Mm-hmm. Ensuite, pendant un an, j'ai refait des missions d'hôtesse d'accueil. Et puis, sur à peu près 8 mois, j'ai fait donc 2 stages dans 2 sociétés prestataires. Bon, puis après, l'enquête a duré parce que j'ai rencontré aussi beaucoup d'hôtesses avec qui j'ai fait des entretiens, j'ai fait des exploitations statistiques, enfin... En tout, c'est un processus qui s'est déroulé entre 2003 et 2009, je pense, pour l'enquête même à proprement parler, à peu près.
Donc un travail assez long.
5-6 ans, quelque chose comme ça.
Christelle Avril, de votre côté ?
Alors, comme je le disais également, j'ai d'abord commencé à travailler comme aide à domicile, mais effectivement, j'ai décidé à un moment de rendre compte de cet univers de travail. Et ce que j'ai décidé pour commencer, c'est parmi toutes les associations pour lesquelles j'avais travaillé, j'en ai sélectionné une en fait qui me paraissait pouvoir en fait rendre possible l'enquête de terrain parce que c'était une association dans une petite ville de banlieue parisienne. Et donc j'y suis allée et puis j'ai demandé à la directrice si elle m'autorisait à faire une enquête dans cette association. Et donc j'ai commencé par observer les formations, les recrutements, étudier les dossiers du personnel, les archives. Et puis à un moment, je lui ai demandé si je pouvais accompagner les aides à domicile comme stagiaire.
Donc elle est vraiment sur le terrain.
Voilà, c'est ça. Et donc les suivre dans leur travail chez les personnes âgées.
Mais alors vous étiez là en tant que sociologue ou en tant qu'aide à domicile justement? Comment est-ce qu'on se déclare par rapport à sa présence?
Alors j'étais là en tant qu'étudiante en sociologie. Donc, pas tout à fait sociologue, justement, peut-être. Donc, ce qui rendait aussi possible le fait d'être accepté quand même dans l'association, je pense. Et en même temps, j'avais travaillé comme aide à domicile, ce qui m'a permis tout simplement d'avoir la confiance du personnel de bureau de cette association pour me laisser aller chez des personnes vulnérables. Et donc ça, c'était quand même assez important d'avoir travaillé moi-même, d'avoir fait mes preuves dans cette association avant de demander à suivre les aides à domicile dans leur travail.
Est-ce que la sociologie s'était déjà intéressée à ces deux professions, Gabrielle Schütz, donc les hôtesses d'accueil en ce qui vous concerne? Il y avait déjà eu des travaux précédemment?
Non, alors il y avait eu des travaux sur les hôtesses de l'air, hein, clairement, les travaux d'Harry Hirschfeld qui ont mis en avant la notion de travail émotionnel. Je pense que c'est quelque chose qui est assez... Enfin voilà, il y a des liens à faire.
Absolument.
Sur les hôtesses d'accueil, non, il y a eu des travaux sur les secrétaires. Donc il y a aussi un certain nombre de passerelles entre les deux, là aussi. Donc enfin, la sociologie du travail a travaillé sur les métiers féminins avant, c'est sûr. Mais pas sur celui-ci en particulier. Donc un métier vraiment d'apparat, en fait. Hein, c'est-à-dire que c'est plus... Les métiers qui étaient investigués auparavant, il me semble que c'était beaucoup plus des métiers effectivement un peu du bas de l'échelle, peut-être comme les aides à domicile, comme les ouvrières aussi dans le monde industriel, mais les métiers liés à l'apparat féminin, ça, non.
Et les aides à domicile, est-ce qu'elles avaient déjà été étudiées par la sociologie, Christelle Avril ?
Alors au moment où j'ai commencé mon enquête, il y avait un regain d'intérêt pour ces métiers, qui était un regain politique aussi, un gisement d'emploi. Et donc il y avait beaucoup d'études socio-économiques sur ces formes d'emploi. Mmh. Mais par contre, il n'y avait pas d'études ayant, enfin voilà, c'était l'originalité de ce point de vue. Il n'y avait pas d'études de l'intérieur de ce milieu, ouais. Suivre ces femmes dans leur travail, mais aussi dans leur vie privée, c'est-à-dire comprendre comment finalement elles vivent et de quoi elles vivent au quotidien.
Alors justement, encore un mot de méthodologie parce que je trouve ça intéressant aussi de poser le cadre de votre enquête par rapport à un travail de journaliste, parce que vous évoquez justement ce qu'a fait Florence Omnas, entre autres. Il y en a eu d'autres avant elle qui ont travaillé comme ça en s'immergeant vraiment dans une profession. Qu'est-ce qui vous distingue précisément de l'enquête journalistique par rapport à la sociologie là, que vous défendez ?
Alors, je dirais que le fait d'éprouver le travail rejoint là l'expérience de Aubenas, c'est-à-dire pouvoir rendre compte de l'usure physique, morale, etc., mais avec les grilles de la sociologie du travail, puisque moi, ce que j'ai fait, c'est importer les grilles de la sociologie du travail ouvrier dans l'univers des aides à domicile, regarder les pénibilités ouvrières. Et ça, je l'ai fait parce que la sociologie du travail avait beaucoup travaillé sur les pénibilités ouvrières.
Ouais.
Donc, c'est un regard particulier, finalement, sur le travail. Et puis, comme l'a suggéré Gabriel au sujet de son enquête, en sociologie, on combine aussi les points de vue. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement d'entrer dans l'univers de ces femmes, mais aussi de multiplier les points d'observation. Donc, j'ai observé les recrutements, les formations, les dossiers du personnel, les moments en fait où elles reçoivent leur salaire, leurs interactions avec les personnes âgées, en observant plusieurs types d'interactions. Si je n'avais que travaillé comme aide à domicile, entre guillemets, j'aurais pas pu les voir, ces femmes-là, sur plusieurs scènes différentes. Et donc voilà, c'est ça l'intérêt aussi de mobiliser les outils de la sociologie.
Gabriel Schütz, un complément de réponse justement par rapport au travail de journaliste.
Oui, tout à fait. Je pense que la question, c'est bien celle du décentrement par la multiplication des sources, des scènes, mais aussi tout simplement pour expérimenter d'autres façons de vivre un même travail. C'est-à-dire que moi-même, pendant le début de cette recherche sur les hôtesses d'accueil, au début, je percevais que mon propre point de vue, pour avoir vécu le fait d'être hôtesse d'accueil, mais en fait, mon point de vue, je me suis rendu compte que c'était celui d'une jeune femme étudiante qui faisait ça comme un travail à côté. Et qu'en réalité, il y avait d'autres points de vue qui existaient sur ce métier, à savoir celui des jeunes femmes aussi, mais qui faisaient ça, que celles que j'ai appelées des professionnelles, qui faisaient ça en se projetant dedans, en appréciant cet emploi, en essayant d'y faire carrière, et qu'en fait, elles n'avaient pas du tout la même façon de le percevoir, de percevoir ses contraintes que moi. Donc ça, cette possibilité de décentrement, elle est vraiment liée au fait de faire une enquête, justement, d'aller rencontrer aussi les autres personnes, faire des entretiens avec elles.
Ouais. Vous avez beaucoup travaillé avec ces hôtesses qui travaillent dans l'événementiel aussi ?
J'ai expérimenté le fait d'être hôtesse événementielle. Par contre, il y a aussi les hôtesses d'accueil en entreprise. Donc celles-ci, elles sont en CDI. C'est pas du ponctuel. Ouais. C'est des temps partiels, très très majoritairement. Et celles-là, je les ai rencontrées plus par le biais de du moment que j'ai passé justement au siège des sociétés prestataires. Donc par le biais de la façon dont elles sont gérées. Et c'est à ce moment-là, quand j'ai fait deux stages dans deux sociétés prestataires, que j'étais amenée à aller sur les bornes d'accueil avec elles, pour aider à faire des livrets de procédures, enfin pour tout un tas de choses. Et donc un peu comme Christelle, je les ai accompagnés dans leur travail à ce moment-là. Mais j'ai pas été moi-même embauchée en tant que telle.
Le premier point commun, évidemment, c'est la présence des femmes dans ces métiers, très largement représentées par les femmes. Je crois que c'est à peu près la même chose d'ailleurs dans vos deux professions. Je crois qu'il y a 90% de femmes, hôtesses d'accueil ou aides-soignantes. Vous confirmez, Gabriel Schütz ?
Alors pour les hôtesses d'accueil, ça dépend de ce dont on parle. Effectivement, pour l'accueil en entreprise, donc les CDI à temps partiel, c'est effectivement plus de 90% de femmes. En ce qui concerne l'événementiel, on a des hôtes d'accueil. En revanche, on en a moins, et surtout sur des missions plus courtes, c'est-à-dire que c'est pas eux par exemple qui vont faire les salons comme le mondial de l'automobile, comme le salon, enfin voilà, c'est pas eux qui font le gros des troupes. Ils interviennent sur des choses beaucoup plus ponctuelles en fait. Typiquement, ils vont faire les défilés de mode, donc il y a des missions qui leur sont allouées.
Il y en a, mais il y en a pas autant
et il y en a pas qui en vivent, parce qu'en fait le volume qui leur est dédié de travail est bien moindre, en fait.
Vous ouvrez le livre, d'ailleurs, sur le salon automobile, parce que c'est vraiment l'image qu'on a aussi de ce métier d'hôtesse, d'accueil, pendant ce moment tout à fait particulier. Et du côté des aides-soignantes aussi, comment les femmes sont largement représentées aussi,
Oui, alors,
Des aides à domicile, pardon.
Moi, j'étudie plutôt les aides à domicile.
Oui, pardon.
Et du côté des aides à domicile, c'est à peu près 95% de femmes, ouais, effectivement. Donc, c'est un métier qu'on peut dire hyper féminisé, quoi.
Ouais. Gabrielle Schütz, alors justement, on peut parler d'un métier de femme qui a été pensé, c'est ce que vous écrivez, comme une activité féminine. C'est ça, c'est exactement ce qui caractérise les hôtesses d'accueil.
Oui, tout à fait. Bah, effectivement, donc déjà, vous l'avez dit, hein, c'est exercé par des femmes. Et puis surtout, c'est une activité qui repose sur des stéréotypes de genre, enfin sur deux stéréotypes de genre en ce qui concerne les hôtesses d'accueil. Et c'est amusant parce que ce sont assez contrastés, voire même opposés. C'est-à-dire que c'est une activité qui se réfère à l'image d'une part de la vampe, hein, et puis d'autre part de la maîtresse de maison. Donc on n'est pas tout à fait dans les mêmes univers, mais l'hôtesse combine les deux. Elle a beaucoup de chance. Donc... Enfin, effectivement, la vampe, parce qu'en fait, ça renvoie à ce qu'on peut appeler le travail décoratif effectué par l'hôtesse d'accueil. Donc, il y a tout un tas de prescriptions corporelles qui pèsent sur elle. À la fois la manière de se tenir, la manière de se coiffer. Il faut avoir les cheveux bien dégagés, il faut avoir les ongles bien faits, il faut être propre, il faut se tenir droite, etc. Il y a beaucoup de prescriptions aussi sur le type de vêtements, la hauteur des talons, la nuance de la teinte du rouge à lèvres.
Ah oui, enfin, il y a vraiment des codes très précis.
Il y a des codes extrêmement précis en termes d'apparence donnés par les sociétés prestataires. Donc tout ça, ça renvoie à cet aspect décoratif, puis ça renvoie aussi à leur rôle, du coup, dans les lieux où elles accueillent. C'est-à-dire que si elles se conforment à ce qu'on leur demande, c'est-à-dire de rester en toutes circonstances polies, disponibles, souriantes, aimables, avenantes, eh bien de fait, ça en fait des cibles privilégiées de la drague, pour ne pas dire du harcèlement quand ça dégénère. Et donc finalement, elles sont là aussi, où elles ont ce rôle aussi, qui est de se faire draguer un peu par les visiteurs. Hein, par,
on va écouter un exemple précis, justement, qui a beaucoup intéressé Quotidien, qui avait enquêté au congrès de l'Association des maires de France. C'était en novembre dernier, donc il y a quelques jours. Salia Braclia, qui est reporter journaliste pour Quotidien, s'est rendue dans le congrès auprès des hôtesses d'accueil. Voici ce qui s'est passé.
On a rencontré 6 hôtesses et elles nous ont raconté ce qu'elles ont vu et entendu pendant le congrès. Exemple, tu me fais bander. C'est ce qu'un maire a dit à une hôtesse quand elle l'a escortée vers la sortie. C'est très excitant quand vous me parlez comme ça. C'est ce qu'un maire a dit à une hôtesse quand elle lui a demandé de s'installer à un endroit bien précis.
Bonjour monsieur. Ce que l'on enlève à nos communes.
Je voulais féliciter l'AMF parce qu'ils ont pris des jolies filles pour nous accueillir.
Et comment?
Ah oui.
Vous trouvez aussi?
Je suis partie hier en début d'après-midi parce que le manque de respect des gens qu'on accueille est terrible. Mais il faut toujours rester souriante, polie, et dans ces cas-là, c'est compliqué, quoi. Et on n'a pas le choix. On est obligé de rester courtoise alors qu'on a juste envie de leur répondre, et on peut malheureusement pas. On est une équipe de 14 filles, nous sommes que des filles, et je pense qu'avec des hommes, ils réagiraient pas pareil.
Voilà, Gabrielle Schütz, un commentaire sur ce que vous venez d'entendre qui rejoint finalement ce que vous nous disiez, hein, sur ces cibles potentielles.
Oui, tout à fait. Et puis en fait, le but du jeu, c'est pas réellement de séduire les hôtesses, en fait. Hein. C'est plus de montrer en les draguant que l'on est un homme, en fait. Hein. C'est plutôt d'affirmer sa virilité.
La réassurance de l'identité masculine, pour reprendre vos propos.
Tout à fait, tout à fait. Ouais, c'est une forme de réassurance beaucoup plus qu'une volonté de séduire. C'est une façon de se remettre les choses à leur place. Les femmes sont des femmes, les hommes sont des hommes, et donc les hommes draguent les femmes.
C'est ça. Et on demande à ces hôtesses de surjouer la féminité, finalement, aussi. Hein. C'est ça ce qui est à la base aussi de ce métier.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis on leur demande aussi d'être des maîtresses de maison. Ça, c'est l'autre volet, c'est-à-dire qu'en plus de ce côté vamp, elles doivent aussi être attentionnées, être attentives, faire en sorte que tout le monde se sente bien. S'il y a quelqu'un qui est malade, eh ben, elles doivent s'en occuper. S'il faut servir un café, eh ben, elles doivent servir le café. S'il faut faire la vaisselle, elles doivent faire la vaisselle. Elles doivent apprendre aussi à se rendre disponibles pour finalement pallier un peu tous les membres dans une organisation, venir aider toute personne qui pourrait avoir besoin d'aide. Donc elles doivent avoir ce rôle de savoir se mettre au service d'une personne ou d'une organisation. Voilà.
Hôtesse d'accueil et aide à domicile, deux métiers dont nous parlons grâce à la sociologie cet après-midi dans La Tête au Carré. Thank you. Cool Cat, c'était Juliette Armanet.
La tête au carré sur France Inter.
Voilà, mes invités sont sociologues, maîtresses de conférences, Gabrielle Schutz pour nous parler des hôtesses d'accueil, Christelle Avril des aides à domicile, avec deux ouvrages qui sont parus autour de ces métiers, avec vos questions et vos témoignages sur franceinter.fr. Il y a Sophie qui nous écrit et Gabrielle Schutz qui justement vous remercie d'abord de parler de ces métiers qu'elle exerce elle-même, et elle nous dit les sociétés qui nous emploient sont des sous-traitants et nous représentons l'image d'une autre société sans y appartenir pour autant. Beaucoup de tâches autour de ces métiers qui ne sont pas valorisées. Pour ma part, en tant qu'hôtesse dans un business lounge, mes tâches principales concernent le nettoyage et l'entretien du lieu plus que l'accueil et la prise en charge des clients. Donc c'est multidimensionnel aussi les tâches à faire.
Oui, effectivement, là ça touche du doigt un point très important qui est que quand on dit hôtesse d'accueil, en fait on ne dit pas grand-chose au sens où j'ai aussi comparé les hôtesses aux femmes à tout faire, c'est-à-dire oui. Qu'elles sont très souvent employées pour des tâches qui n'ont pas grand-chose à voir. Déjà quand on fait de l'accueil à la base en accueil en entreprise, on fait aussi beaucoup d'autres choses. Mm-hmm. On fait des petites tâches de secrétariat, parfois on fait les lettres négatives de réponse à des candidatures. On va s'occuper de la gestion des fontaines à eau. Enfin voilà, on fait plein d'autres choses comme ça. Et dans des contextes notamment où il y a eu des licenciements économiques, ce qui arrive dans les entreprises, ça peut très bien arriver que les tâches d'une assistante soient refilées à l'hôtesse d'accueil, en fait. En tout cas, une partie de ces tâches, faute de nouvelle embauche. Et généralement, les hôtesses d'accueil, celles que j'appelle les professionnelles, ne vont pas s'en plaindre parce que ça diversifie, en fait, l'étendue de ce qu'elles peuvent faire. Donc, ça rend le travail intéressant. Mais néanmoins, elles restent payées comme des hôtesses d'accueil aussi dans ces cas-là. Donc, en effet, c'est une des caractéristiques d'avoir énormément de tâches que font ces femmes.
Christelle Avril, quel est le profil de ces aides à domicile? Vous avez sous-titré votre livre Un autre monde populaire. J'aimerais d'abord qu'on donne le nombre de personnes qui font ce métier en France, parce que c'est assez spectaculaire. On est loin d'imaginer qu'elles sont aussi nombreuses.
Alors, c'est plus de 500 000 femmes.
Ouais, 570 000, je crois, pour les derniers chiffres. Donc, c'est beaucoup.
Donc, c'est énorme.
Ouais.
C'est énorme.
Et quel est le profil alors de ces femmes, donc, principalement, qui exercent ce métier?
Alors ces femmes, elles viennent de milieux très divers, hein, ce qui n'aide pas en fait à leur mobilisation collective en réalité.
Oui.
Elles ont suivi souvent des trajectoires assez variées et une des choses sur laquelle je voulais insister, c'est que ces femmes, elles ont des rapports assez divers en fait aux tâches domestiques qu'on leur demande de faire et aux soins aux personnes âgées. On a toujours cette idée que les femmes de milieux populaires, elles ont un certain plaisir à faire le ménage, la maternité centrale, le soin aux autres, etc. Bon, moi, ce que montre mon enquête, c'est que ces rapports au travail sont assez divers et qu'ils sont bien éclairés par le type de trajectoire qu'ont eu ces femmes auparavant. Donc, une partie des femmes, moi, que j'ai rencontrées et qui m'ont beaucoup interpellée, et c'est ce que disait Gabriel tout à l'heure, c'est quand on fait une enquête de sociologie, on découvre des points de vue qu'on n'aurait pas imaginés, en fait, en faisant le métier. Et donc, j'ai rencontré des femmes qui, soit étaient un peu indifférentes à ce métier, elles me disaient, oh, ben, ça ou autre chose. Ou des femmes qui avaient honte d'être aides à domicile. Et ces femmes-là, souvent, elles ont eu ce qu'elles appellent des vrais métiers. Alors, des vrais métiers, c'est quoi? C'est des métiers où il y a des savoir-faire professionnels qui sont reconnus. Je suis pas en train de dire qu'il y en a pas dans l'aide à domicile, mais ceux-là, ils sont reconnus. C'est des métiers où il y a des collectifs, où il y a de la rigolade, de l'ambiance, etc. Et c'est des métiers qui sont reconnus par leur entourage.
Donc, une dévalorisation même de l'entourage de ces personnes dans l'exercice de leur métier.
Tout à fait. Hein. Tout à fait. Leurs maris leur disent, mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas un vrai métier. Donc, voilà. Une partie de ces femmes ont de la distance par rapport à ce métier. Ça veut pas dire qu'elles le font mal. Elles le font même de manière très investie physiquement. Mais par contre, elles ne veulent pas rentrer dans la prise en charge spécifique de la dépendance. Elles considèrent qu'elles sont pas formées pour ça. Et puis, j'ai rencontré d'autres femmes qui, elles, on peut dire qu'elles sont fières de ce travail. Hein. Elles aiment, en fait, il y a une certaine gratification à faire ce travail pour elles, et notamment à s'occuper de personnes dépendantes. Et ces femmes-là, elles sont assez diverses. Il y a beaucoup de femmes étrangères qui ont des diplômes très élevés, hein, parfois qui sont allées à l'université et qui, sur le marché du travail français, sont déclassées. Alors, au départ, elles s'essaient dans des collectivités et puis elles trouvent que c'est trop raciste. Et donc, elles décident finalement de se reconvertir vers des petits diplômes de l'aide à domicile et de miser sur la professionnalisation de ce métier. Et puis, parmi elles, il y a des femmes aussi qui sont des femmes qui ont eu des grandes difficultés scolaires, qui sont en rupture avec leur milieu. Certaines sont filles d'immigrés, mais pas toutes. Et surtout, elles sont souvent illettrées. Et ces femmes-là, quand elles arrivent dans l'aide à domicile, après avoir été équipières de fast-food, ouvrières, ou pour certaines employées à demeure chez des personnes âgées chez lesquelles elles ont vécu jusqu'à leur mort, quand elles entrent dans l'association d'aide à domicile, elles le vivent comme quelque chose de positif, comme une libération en fait.
On va écouter le quotidien justement d'une de ces personnes. Ça a été filmé par France 3 pour un documentaire sur justement ces aides. Ça s'appelle « Le temps des aides à domicile ».
Bonjour madame Philippe. Buvez votre café. Hein, je vais poser mes affaires.
Souvent les gens ils disent qu'on est la femme de ménage. Des fois ça m'embête, mais en même temps, dans leur dépendance à eux, c'est plus facile de dire c'est ma femme de ménage que l'aide à domicile qui vient m'aider parce que je ne peux plus. Si, il faut manger, hein.
Mais oui, je viens manger.
Je ne pars pas tant que vous n'avez pas mangé.
Oui, ben.
Il peut y avoir de relations affectives, mais c'est difficile à tenir. Forcément, on s'attache aux personnes qu'on accompagne. Parce que voilà, on est dans l'humain, quoi. Et puis on est dans leur intimité tous les jours, donc c'est difficile de ne pas passer certaines limites affectives, quoi, des fois.
Allez. Vous n'êtes pas fait souvent, vous.
Je viens autant que je peux, mais voilà, il y a des jours où je travaille pas. Hein. Des fois, ajouter un quart d'heure de plus, c'est pas grand-chose, mais c'est énorme un quart d'heure de plus. Ça nous laisse même 5 minutes au bout du compte pour... prendre le temps. Une fois que la toilette est terminée, que la personne est au moins à table avec son petit déj, de lui dire comment ça va, pour avoir du contact. Parce que c'est sûr que si en une demi-heure, tu tiens ton truc comme si tu pointais à l'usine, bon bah y est, j'ai fini. Bon bah tant pis, hein, aujourd'hui, à plus son fromage, puis son dessert, moi je m'en vais. Hein. Ouais, ça rime à rien, on travaille avec des personnes, on n'est pas des machines.
Christelle Avril, un commentaire sur ce que vous venez d'entendre justement sur ce quotidien et le témoignage hein, d'une aide à domicile.
Alors ce témoignage, effectivement, il renvoie pour moi à plein de propos que j'ai entendus et à ces femmes qui prennent plaisir à être au contact de personnes âgées, à s'occuper d'elles, qui trouvent ça gratifiant. Et qui disent bon bah si elle veut m'appeler la femme de ménage et là on sent que elle a bien un savoir-faire en fait dans la prise en charge de la dépendance. On sent qu'elle a compris, qu'elle a réfléchi à la manière dont cette personne a envie de l'appeler parce que c'est supportable pour elle de l'appeler comme ça. Et donc on sent bien là en fait que c'est bien un emploi finalement à la fois qui demande des savoir-faire spécifiques au vieillissement
Et qui s'ajuste aux personnes dont elle s'occupe aussi spécifiquement.
Et qui peut-être est une forme de service public non reconnu comme tel.
La limite affective aussi très difficile finalement à établir. Hein. On voit bien que selon la personne avec laquelle on travaille, justement en tant qu'aide à domicile, bon ben voilà, le curseur il est très changeant. Hein.
Oui, alors certaines s'attachent effectivement à certaines personnes âgées. Hein. Mmh. Ça fait partie de cette gestion émotionnelle du travail. Au fil des années d'expérience, elles savent de mieux en mieux gérer, hein, puisque souvent elles ont travaillé pour des personnes qui sont décédées à un moment. Mmh. Donc, les années d'expérience jouent beaucoup, en fait, hein, dans leurs compétences professionnelles.
Plutôt des femmes âgées, d'ailleurs, quand même. Enfin, âgées, tout est relatif, mais on est loin, justement, des âges enregistrés pour les hôtesses d'accueil. Mais les recruteurs, puisque vous avez observé aussi hein, cette phase-là du métier, rechignent plus à engager des jeunes femmes, pour le coup?
Alors ça, c'est effectivement une observation assez stupéfiante que j'ai faite en observant les recrutements. Bon, les recrutements, ils se font souvent très rapidement. Et d'abord, ce sont des femmes, puisque les hommes sont assez volontiers écartés. Mmh. Alors, à l'exception des hommes étrangers, médecins, qui sont là de passage. Mais globalement, les hommes sont écartés, mais les très jeunes femmes aussi, et notamment les très jeunes femmes qui sortent des formations professionnelles d'aide à domicile.
Mais pourquoi alors? C'est incroyable.
Alors oui, ça pourrait paraître incroyable, mais en réalité, elles font le pari. Alors c'est plus ou moins conscient, hein, mais elles font le pari que ces femmes, à partir de 30 ans, 40 ans, 50 ans, eh bien tout simplement, elles ont l'habitude du travail domestique. Elles ont l'habitude de s'occuper de leurs enfants. Elles ont l'habitude de gérer plusieurs activités à la fois. Mmh. Donc l'ensemble de ces savoir-faire qu'elles ont acquis dans la sphère familiale du fait de l'inégalité du partage du travail domestique au sein des couples. L'ensemble de ces savoir-faire, ils sont invisibles, ils sont pas reconnus, mais elles savent bien qu'ils sont là. Et quand je leur dis, mais pourquoi la petite jeune, là, elle a pas été prise, elles me disent, bon, on sait jamais si elles vont savoir faire la cuisine, puis elles ont pas d'enfants, on sait pas comment elles se comportent, etc. Donc voilà, c'est là l'invisibilisation des compétences des aides à domicile, elles sont pour partie ici.
Allez, encore deux questions pour vous avant de revenir aux hôtesses d'accueil. Valentin qui nous dit ceci, c'est un métier, les aides à domicile, qui peut être valorisant s'il y a une véritable prise en compte par une formation professionnelle et par exemple la psychologie. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre ?
Alors, je suis tout à fait d'accord sur le fond. Alors, j'ai envie de dire qu'il y a des formations qui existent, le problème étant plutôt qu'elles ne sont pas obligatoires. Mmh. Et donc, dans la mesure où elles ne sont pas obligatoires et dans la mesure où la concurrence a été instaurée en partie par aggravée par le plan Borloo, les entreprises, si vous voulez, n'ont pas toujours intérêt à recruter des personnes qui sont qualifiées. Surtout que des personnes qui dont les qualifications ne sont pas reconnues, qui sont prêtes à faire ce métier, bah il y en a. Mmh. Et donc effectivement, il faudrait d'abord peut-être rendre obligatoire une formation minimale, mais ça veut dire qu'il faudrait la payer. Et il faudrait aussi pouvoir reconnaître les savoirs de ces femmes au moment où elles sont embauchées et leur expérience professionnelle.
Un autre message de Paul, toujours sur les aides à domicile. La rémunération justement de ces personnes est-elle suffisante et suffisamment valorisée pour qu'elles puissent rester dans l'association qui les emploie ?
Alors la première plainte de ces femmes, et ce qui a fait qu'elles m'ont accepté d'emblée pour cette enquête, c'est le niveau des salaires. Les salaires sont beaucoup trop bas, et notamment du fait du temps partiel. Donc on a 70% de temps partiel dans l'aide à domicile, et ça c'est vrai depuis les années 70. Donc elles gagnent à peu près en moyenne 700 euros par mois. Et donc évidemment les salaires sont trop faibles et ne permettent pas de stabiliser la main d'œuvre. Elles sortent de l'emploi, elles rentrent, elles cherchent autre chose, elles essayent de cumuler des emplois. Donc c'est effectivement une grande partie du problème.
Gabrielle Schütz, pour les hôtesses d'accueil justement, vous notez aussi dans ce travail sociologique un renouvellement constant, il y a un turnover aussi très très important dans ces professions.
Oui, effectivement, je pense qu'en accueil en entreprise, on n'est pas loin de 50%, je pense, au niveau du taux de turnover. Mmh. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hôtesses qui restent, mais effectivement, c'est pas la majorité des cas. Bon, alors, pour ce qui concerne l'événementiel ou c'est des CDD, ça peut paraître relativement logique, notamment parce que on a beaucoup de personnes qui font ça à côté, soit parce qu'elles sont étudiantes, soit parce qu'elles essaient de s'insérer dans une carrière artistique, par exemple, et ça leur permet de financer, en fait, ce qu'elles considèrent comme étant leur activité principale. Mais voilà, on accueille en entreprise, c'est pas exactement cette population-là. On a aussi des étudiantes et des personnes qui font ça à côté. Mais donc, on a quand même un tiers des femmes qui font ça et qui ont envie d'y rester, en fait, qui se professionnalisent là-dedans. Mais là aussi, il y a le temps partiel. C'est à peu près deux tiers des CDI proposés par les prestataires d'accueil en entreprise qui sont des CDI à temps partiel. Donc là aussi, en fait, ça ne permet pas. C'est pas suffisant. Donc beaucoup, en fait, exercent une autre activité à côté pour pouvoir cumuler deux revenus salariaux et puis tenter de s'en sortir. Et donc là aussi, ça fait quelque part que il y a du turnover, c'est-à-dire que les femmes finissent par partir, par faire autre chose, en fait.
On va écouter un autre témoignage d'une hôtesse d'accueil sur le site oriane.fr, c'est là qu'on l'a trouvé, pour voir un petit peu comment elle parle elle-même, justement, de leur métier.
Oui, bonjour, il y a Monsieur Nicholson à l'accueil pour vous. Très bien. Le métier d'hôtesse d'accueil consiste à informer, orienter les visiteurs, préparer des badges, distribuer le courrier, éventuellement préparer des colis pour faire partir chez les clients, réservation de salles. Ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est le côté humain, être auprès des gens, pouvoir les renseigner. En général, on demande une formation Bac plus 2 avec comme langue l'anglais qui est indispensable et si c'est possible, une troisième langue. Les qualités requises, être toujours souriante, un excellent relationnel, être à l'écoute des gens, être très ordonné, avoir une bonne élocution pour répondre au téléphone. Le plus de ce métier, c'est le côté relationnel, accueillir les gens, donner ce qu'on a de soi aux gens pour qu'ils passent une bonne journée. Les côtés négatifs de ce métier, c'est que quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, bah, paf, ça nous retombe dessus. Il faut faire avec, mais toujours en gardant le sourire.
Ah ça, le sourire justement des hôtesses d'accueil, Gabrielle Schütz, on pourrait quasiment en faire une thèse là aussi. C'est le métier du sourire presque, finalement, non ?
Oui, alors ce qui est intéressant dans ce témoignage, je trouve, c'est que on voit vraiment finalement à quel point ça demande des compétences, hein, en fait, de faire de l'accueil, y compris parce qu'on fait tout un tas de choses qui ne sont pas de l'accueil.
Oui.
Et puis même parce que, en fait, pour parvenir à ce que les gens vous trouvent agréable, en fait, ça veut dire que vous avez su vous adapter, en fait, à un univers professionnel. Et être jugé agréable dans une grande banque d'affaires, c'est pas du tout la même chose que d'être jugé agréable chez Radio France, par exemple, ou dans une petite agence de communication. Donc, en fait, ça demande vraiment des savoir-faire. Et quand elle dit bac plus 2, il faut avoir l'anglais, etc. Effectivement, quand j'ai étudié les hôtesses, quand j'ai cherché à connaître leurs qualifications, donc sachant que c'est un métier qui est rémunéré au SMIC, qui est considéré comme non qualifié dans la convention collective des prestataires de services, en réalité, les hôtesses d'accueil, elles sont plus nombreuses que les femmes de leur génération, je dis bien que les femmes et de leur génération, du même âge, elles sont plus nombreuses à avoir le baccalauréat, et elles sont tout aussi nombreuses à avoir des diplômes bac plus 2 et plus, en fait. Donc ça veut dire qu'il y a très peu de... Enfin, il y a évidemment des hôtesses d'accueil qui n'ont pas le bac, tout ça, mais en fait, il y en a très peu, il y en a beaucoup moins qu'en population générale, c'est-à-dire qu'elles sont plus diplômées que la moyenne des femmes de leur âge. Et donc, toutes ces compétences, en fait, ne sont pas rendues visibles, elles ne sont pas rémunérées comme des compétences, en fait. On les attend d'elles. En fait, c'est des compétences qui résultent déjà d'avoir été scolarisées, donc savoir s'adapter, avoir une bonne élocution, connaître l'anglais, tout ça, c'est parce qu'elles ont longtemps fréquenté les bancs de l'école. Mais comme il n'y a pas un diplôme relatif à ça, quelque part, ça passe inaperçu. Et puis, c'est aussi des compétences liées à leur apprentissage du rôle féminin, justement, savoir se rendre utile, savoir être souriante, savoir être séduisante, savoir s'apprêter. Et là encore, c'est des compétences qui résultent d'un apprentissage, mais cet apprentissage n'est pas certifié par les canaux classiques de la certification des diplômes. Et donc, du coup, ces apprentissages sont invisibilisés, ne sont pas perçus comme des compétences, mais plutôt comme des qualités naturelles, comme quelque chose que toute femme a, ou devrait avoir en tout cas, et donc on va quand même pas rémunérer quelque chose qui est naturel, qui vient avec, qui est dans le package de la féminité.
C'est inné, hein, voilà, c'est ça.
C'est inné, voilà, ouais. C'est inné, donc ce n'est pas rémunéré.
Ouais. La précarité, elle est réelle aussi, plus largement d'ailleurs pour les métiers féminins, hein, c'est ce que vous dites en conclusion de cet ouvrage.
Oui, tout à fait, alors dans ce qui concerne les hôtesses d'accueil, notamment parce qu'elles sont externalisées, elles sont sous-traitées, hein, c'est ce que disait une des premières auditrices dont vous avez cité la question, elles sont employées par un prestataire pour travailler chez un client, et donc en fait c'est une situation particulière qu'on appelle la sous-traitance ou encore l'externalisation, et en fait... Pourquoi est-ce qu'elles sont pas employées directement par le mondial de l'automobile? Pourquoi est-ce qu'elles sont pas employées directement par l'entreprise où il y a la borne d'accueil à laquelle elles se trouvent? Parce qu'en fait, alors il y a de multiples raisons, je vais pas toutes les développer, mais la plus frappante peut-être, c'est le fait que ça permet en fait pour un client de passer par un prestataire, ça permet finalement de changer d'hôtesse quand on veut, comme on veut. C'est-à-dire que si l'hôtesse ne convient plus, eh bien, on n'a pas besoin de la licencier. C'est très flexible. Enfin, un contrat commercial, c'est très facile à rompre. Bon, puis on n'a même pas besoin de rompre le contrat commercial. On dit au prestataire, mettez-moi une autre. Et donc, finalement, ça permet d'avoir des hôtesses toujours jeunes.
Ouais. Hein,
elles vieillissent pas. Toujours souriantes, toujours motivées aussi. Ça permet de garder une pression, cette incertitude. C'est un petit peu comme dans l'intérim, hein, le fait de passer par un intermédiaire entre la personne qui utilise le travail et le travailleur. Donc ici, l'intermédiaire, c'est le prestataire, c'est pas l'agence d'intérim. Mais la différence avec l'intérim, c'est que l'intérim, en fait, c'est légalement, ça doit être réservé à des situations temporaires, en fait. Alors que là, on n'est pas du tout sur des temporaires, en fait. On est sur des postes au long cours. On n'est pas sur le remplacement d'un salarié absent. On n'est pas lié à la saisonnalité d'une activité. Et donc finalement, alors même que les hôtesses d'accueil en entreprise sont en CDI, en réalité, le fait d'être prestataire fait qu'elles peuvent être débarquées du jour au lendemain. Donc c'est un peu le nec plus ultra, la prestation de service.
Voilà, précarité et flexibilité demandées, évidemment, à ces jeunes femmes. Ça fait partie aussi du contrat sur ce travail d'hôtesse d'accueil. On termine avec les aides à domicile, puisqu'on a beaucoup de messages également sur cette profession. Christelle Avril, Anc nous dit, beaucoup de ces femmes sous-payées se trouvaient parmi les gilets jaunes. Parmi elles, justement, même si peu étaient interviewées, elles n'en ont pas profité pour prononcer des revendications propres à leur sort. Elles ne le font jamais. Les hommes, dit Anc, gueulent de nouveau plus fort, exonération des heures supplémentaires. Beaucoup de chemin reste à parcourir pour donner sa valeur véritable à tout ce qui est effectué en très grande partie par ces femmes, y compris ce qu'elles font à la maison ou dans la famille élargie. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ce message?
Alors déjà, je dirais merci pour cette question, puisque effectivement, elles ne vont pas revendiquer elles-mêmes pour elles-mêmes, mais la plupart des aides à domicile doivent utiliser leur voiture pour travailler. La grande majorité des aides à domicile travaillent en milieu rural, travaillent dans des petites villes où il n'y a pas des transports en commun, et elles ont souvent un quart d'heure pour aller d'une prestation à une autre. donc pour aller d'un domicile à l'autre. Donc elles utilisent leur voiture et pour elles, évidemment, ce mouvement, c'est l'occasion quand même d'exprimer ou de se lier à, et de faire savoir leur pauvreté finalement.
Vous en avez repéré beaucoup justement au milieu des Gilets jaunes ou pas ?
Alors au milieu des Gilets jaunes, elles sont assez nombreuses, oui, oui. Les aides à domicile sont présentes en tous les cas et sont là pour aussi exprimer finalement cet appauvrissement qui passe assez inaperçu parce que ça passe par la voiture, etc.
Sylvie dit dans un autre message, ex-cadre supérieur dans la fonction publique, je travaille en CDD en tant qu'aide à domicile en milieu rural. Mal reconnue, cette profession est pourtant majeure pour le bien-être des personnes âgées. C'est ce que j'ai appris, l'humilité, dit Sylvie dans ce dernier message.
C'est un très joli témoignage et ça montre la grande diversité des femmes qui arrivent vers ces métiers et qui aimeraient qu'ils soient reconnus à leur juste valeur.
Merci beaucoup. On pourrait faire beaucoup plus long, évidemment, sur ces professions, mais on souhaitait déjà en donner un éclairage grâce au travail que vous avez réalisé. Je renvoie vers ces deux ouvrages, donc les aides à domicile, un autre monde populaire que vous signez Christelle Avril. C'est aux éditions La Dispute. Et puis, quant à vous, Gabriel Schutz, cet ouvrage qui est sorti récemment, Jeune, jolie et sous-traitée, les hôtesses d'accueil, toujours aux éditions La Dispute. Merci beaucoup d'être venu cet après-midi.
Merci.
À bientôt.
Les guerres en Syrie et en Irak ont poussé des milliers de civils à quitter leur maison. Aujourd'hui, ils regagnent leur foyer et commencent à reconstruire. Depuis 160 ans, l'œuvre d'Orient aide les chrétiens d'Orient à rester sur leur terre. Leur avenir dépend de notre soutien. Faites un don sur oeuvre-orient.fr ou par chèque à l'œuvre d'Orient, 20 rue du Regard, 75 006 Paris.
Fabrice Drouel, bonjour.
Bonjour Mathieu Vidard.
Ben oui, vous avez 30 secondes pour nous présenter Affaires Sensibles, Royal.
Sans tout dévoiler. Mm-hmm. Alors nous allons parler du dernier génocide du siècle, du 20e siècle. Il a eu lieu au Rwanda en 1994. C'était le troisième, puisque le premier était celui des Arméniens par les Turcs en 1915. Bien sûr, après il y a eu la Shoah pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc ce génocide des Hutus, des Tutsis par les Hutus. Nous allons revenir sur cette tragédie, donc qui n'est pas vieille, elle n'a que 24 ans.
Ce sera dans Affaires Sensibles dans quelques minutes après les infos, en remerciant Gilles Gaillard qui était à la technique aujourd'hui, en vous souhaitant un très bon après-midi puisqu'il est 15h.